BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, le retour de quoi je me mêle, deuxième partie. Olivier Frigara, dont on fait le Mac, est avec nous pour commenter l'actu. Passionnante première partie. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube et que vous tombez sur ce module, ben, sachez qu'il y en avait un premier, hein, avec évidemment tous les commentaires sur la WWDC d'Apple et puis aussi les tourments d'Apple concernant le DMA et puis le procès, hein, qui lui a intenté aux États-Unis. Nicolas Lelouch est avec nous aussi de Numérama.
Bonjour François, bonjour Olivier.
Et on va toujours parler d'IA et de smartphone, mais cette fois-ci avec le concurrent principal d'Apple. Il s'agit de Samsung, qui a annoncé pas mal de choses concernant justement sa vision de l'IA sur les modèles, en fait, modèles de smartphones.
Samsung a pris un peu d'avance sur les autres acteurs de smartphones dès le début de l'année, en annonçant Galaxy AI, qui est une suite logicielle avec plein de différents services en IA. Ça qui est intéressant sur Galaxy AI, on a longtemps pensé avec les rumeurs que ça serait le ChatGPT de Samsung, mais non, en fait, c'est juste un nom commercial qui englobe plein de fonctions. Ça peut être le résumé des notes, le résumé d'une page web, la possibilité de passer des appels dans d'autres langues avec une traduction en temps réel. C'est assez intelligent.
C'est génial.
Ouais. Eux aussi, ils ont une approche mi-locale.
Ça marche super bien, c'est-à-dire que les ventes de Galaxy S24, on ne sait pas si c'est grâce à ça, mais elles sont excellentes.
Elles sont en train, oui, ça se passe vraiment pas mal pour eux. Il y a une vraie approche à la fois cloud, mais à la fois locale. Il y a une envie de faire des choses directement sur le smartphone. Donc, d'une certaine manière, Samsung est en train de précéder ce qui risque de se passer dans le reste de l'industrie, que ce soit chez les acteurs chinois et chez Apple avec iOS 18. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Samsung, au début, a lancé cette fonction uniquement sur ses S24 et on pouvait penser que ça serait un moyen de vendre des S24, mais non, eux ont une volonté de dire que Galaxy AI, maintenant, ça va englober tout l'écosystème Samsung, et petit à petit, ils sont en train de le déployer sur d'anciens appareils. Alors évidemment, ça ne va pas remonter sur les téléphones d'il y a 4-5 ans, mais il y a déjà une première série, il y a One UI 6.1, donc la mise à jour, qui est disponible depuis le 28 mars, qui ajoute Galaxy AI sur les S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 et les Galaxy Tab S9, pour tous les modèles de l'année dernière.
Pas mal.
Que l'autre gamme, c'est pas mal, parce que le S23, c'est quand même un grand parc. Ouais. Le S23 FE, il est abordable. C'est-à-dire qu'on peut avoir un smartphone abordable aujourd'hui avec de l'IA intégré. Et je trouve que c'est plutôt une démarche à saluer, parce que c'est cool de voir, surtout Samsung qui a longtemps été critiqué pour les mises à jour inexistantes de ses produits. C'est cool qu'on n'ait pas que sur des mises à jour de sécurité, mais on ajoute la fonction phare des Galaxy S24 sur les autres
parce
appareils
que évidemment,
assez
ça,
rapidement.
Ça va freiner les ventes du S24. En tout cas, le fan de Samsung qui a un S23 et qui se disait « Ah, c'est tentant et tout, j'aimerais bien avoir ces fonctions AI », il fait sa mise à jour. Est-ce que ça sera les mêmes fonctions? On retrouve les mêmes fonctionnalités que sur le S24
Quasiment, après, je crois que oui, hein, c'est toutes les mêmes fonctionnalités. Après, Galaxy AI est amené à évoluer. J'avais interviewé lors du lancement la responsable innovation IA de Samsung qui disait qu'eux travaillent aussi sur une version de Bixby avec leur propre modèle de langage qui arriverait plus tard avec du traitement local. Bixby qui est très populaire aux États-Unis. Hein.
Ah ouais.
Bixby, ça marche bien en anglais.
Ah ouais.
En coréen et en anglais, ça marche très bien. En français, bon, il y a peut-être un petit problème, mais peut-être que le modèle de langage peut sauver justement cet aspect-là. Donc, peut-être que les futures fonctions de Galaxy AI, celles qui exploitent la puissance locale, auront besoin des dernières puces Snapdragon, auront besoin des dernières puces Exynos. Donc, à terme, les nouvelles fonctions seront réservées aux nouveaux appareils. Maintenant, tout ce qui est résumé, tout ce qui est appel en direct, tout ça, c'est disponible sur les S23 de l'année dernière et c'est plutôt pas mal.
Et on comprend pourquoi Apple accélère de son côté, parce qu'il ne peut pas laisser le marché à Android et Google et Samsung d'un autre côté. Hein. Ça devient un argument de vente fort. Moi, ce qui m'a fait le plus sourire, c'était que lorsqu'ils ont sorti les MacBook Air il y a 15 jours, 3 semaines, l'argument de vente, c'était de dire que c'est l'ordinateur personnel le mieux taillé pour faire de l'IA.
Ah oui, avec le M3, c'est ça.
Mais monsieur Apple, vous savez que vous n'avez pas d'outil d'IA. Donc, ils font tourner Copilote dessus. Donc, c'est un peu bizarre, quoi. Mais les démons Apple avec des outils de Microsoft, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal.
Après, c'est l'opportunisme de la com.
Oui, bien sûr.
C'est histoire de mettre dans la tête des gens Apple.
Non,
IA,
ça monte pour
IA.
Eux, ça devient important. Ouais. Ce n'était pas le cas il y a un an. Aujourd'hui, on sent qu'ils mettent. Ils accélèrent fort. Et même pour l'Apple Vision Pro, on pourrait se dire qu'ils ont perdu du temps avec l'Apple Vision Pro. L'IA, c'est un outil essentiel.
C'est un des meilleurs produits pour l'IA. Lui, d'ailleurs, je les ai emmenés en plateau, les lunettes de Meta.
Oui.
Elles ont maintenant une IA en bêta. Alors, il y avait déjà Meta AI qui permet de répondre. C'est impressionnant. Hein. C'est le niveau de ChatGPT en qualité de réponse. C'est qu'en anglais, malheureusement. Mais là, ils ont ajouté une fonction photo. Donc, je regarde la Tour Eiffel. Je dis, c'est quoi? Et ça va me dire, c'est la Tour Eiffel. Ça a été fabriqué en telle année. Et c'est instantané. Il n'y a quasiment pas de temps de traitement.
Et donc, tout ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'affichage sur les lunettes. Hein. C'est vraiment que de l'audio.
Ça parle, oui, c'est ça. Okay. Mais pour moi, les produits wearables, lunettes, casques, se prêtent très bien à l'IA, en tout cas sur la reconnaissance d'image. on pourrait imaginer cuisiner avec des lunettes connectées et avoir une assistance sur attention, là ça commence à être bien cuit, arrête ou retourne-les.
C'est assez mouvant.
Il y a plein de choses qui sont possibles.
On voit quand même la stratégie de Meta qui est en train de se dessiner finalement.
Alors, on voit qu'ils sont plutôt. On souvent moqué, mais ils sont pas mal. Bon, alors moi, je me moque toujours d'eux sur le métavers, c'est n'importe quoi le métavers. Mmh. Par contre, les produits qu'ils ont créés pour le métavers, ils ont un sacré potentiel.
Je ne sais pas si vous avez testé le Quest 3. Là, j'ai eu la chance, c'était compliqué de l'avoir. Hein. J'ai réussi à en avoir un. Et c'est vraiment un produit étonnant hein, quand même, hein, parce que par rapport à son prix, il est super. La qualité d'image est meilleure que le 2. Je trouve que les manettes sont sympas. Ça marche même. Certaines fonctionnalités fonctionnent comme sur l'iPhone sans manette, mm-hmm. simplement avec les mains. Le switch entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée se fait très bien. La qualité a vraiment augmenté aussi de la vidéo. C'est vraiment un produit pour ce prix-là qui est vraiment malin.
Si la réalité virtuelle mixte augmentée éclos dans les prochaines années, il ne faudra pas du tout sous-estimer l'apport de Mark Zuckerberg et de Meta là-dessus. C'est eux clair. Qui ont le plus mené l'industrie, qui ont créé l'écosystème.
Ils ont un écosystème
incroyable. Peut-être que ça ne sera pas eux les rois, hein. Peut-être que ça sera Apple et Google qui vont reprendre l'ascendant, comme souvent sur ce type de secteur. Mais c'est grâce à Mark Zuckerberg, à sa vision avec Oculus, qu'on arrivera à ça. Donc, il n'a pas que du mauvais, ce Mark Zuckerberg.
Oui, et puis il y a de la place pour plusieurs acteurs. Ils ne sont pas sur le même terrain en matière de rapport qualité-prix, c'est évident. Ils sont 10 fois plus chers du côté d'Apple. D'ailleurs, si Apple va commencer à distribuer ailleurs qu'aux États-Unis là, prochainement pour la WWDC.
Ça, c'est aussi la vraie question. Hein. Est-ce qu'on aura un Vision Pro là, dans les mois qui viennent en France?
La logique voudrait que oui, on va voir. Mais on va voir.
On verra.
Mais pour revenir à Meta, la meilleure nouvelle qui est arrivée à Mark Zuckerberg, c'est qu'Apple sort un Apple Vision Pro.
Oui,
c'est un outil d'évangélisation autour de.
Il se sent moins seul. Alors, il a un concurrent de taille, mais il est moins seul.
Il y a un concurrent qui va faire le taf marketing qu'il n'arrive pas à faire.
Voilà, ils n'arrivaient pas à trouver les arguments de vente. C'est l'argument de vente, ce n'est pas le métaverse, c'est l'ordinateur spatial.
C'est clair.
L'erreur. Et les lunettes vont aider aussi, je pense.
Ouais,
c'est clair.
Ouais.
Des nouvelles lunettes attendues en fin d'année avec un écran, pour le coup, dans le verre. Ça commence à être pas mal.
Oui, ça arrive, ça. Hein,
il paraît que... Moi, je suis fan de ce produit. Je n'ai rien à lui reprocher, mais il paraît que le prochain modèle va implémenter des petits écrans pour la réalité augmentée dans la visière. Donc, curieux de voir.
Une petite start-up bordelaise, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, qui s'appelle MicroLED ou Lyonnaise. Qui fait ça super bien.
Dans le Rhône, en effet.
Ouais.
Que je reçois de temps en temps dans Tech & Co, ils font des trucs incroyables.
Qui intègre ça, c'est de l'OM. Hein. Ils proposent ça à des fabricants de lunettes,
de casques, de motos, pour les cyclistes, etc.
Ouais.
Ils font des trucs impressionnants.
Et c'est prometteur.
On enchaîne avec les télécoms. Et c'est Free qui a dégainé en fait une offre intéressante avec la Freebox, qui est la nouvelle Freebox. Hein, je crois que c'est qu'avec la Ultra. Hein.
Non, c'est toutes les Freebox.
C'est toutes les Freebox.
Y compris, ça marche avec les Livebox. Hein, c'est juste plus cher avec les autres.
Oui, bien sûr. Ouais. OK. Et donc, ils ont savoir que Xavier Niel est sur tous les terrains. Et il a investi il y a quelques années de là dans une boîte qui s'appelle Chiara. Qui lui appartient d'ailleurs, je crois, ou en tout cas, il a une grosse partie du capital.
Il est investisseur, en tout cas.
Qui veut, courser Verisure, hein, qui est, vous le savez, le leader de tout ce qui est surveillance à la maison, de sécurité. Voilà, vous mettez des capteurs partout dans la maison. Fusionnez ça avec un système de... comment on appelle ça, de hotline, au cas où quelqu'un entre chez vous, il y a un gardien qui va venir, etc. Et Chiara, donc, lance à peu près la même offre, moins cher, et encore moins cher, avec une Freebox.
C'est ça, le free de la télésurveillance, c'est comme ça que Free présente Chiara. Bon, c'est pas un partenariat qui sort de nulle part. Hein. Le créateur de Chiara, c'est l'ancien directeur général adjoint de Free, c'est Xavier Niel depuis le début qui soutient le projet. Et c'est les mêmes équipes qui avaient fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du pack sécurité de la Freebox Delta. À l'époque, avec la Freebox Delta, on avait une caméra gratuite, des capteurs pour la sport.
Hein,
ça n'a pas marqué les esprits, mais en tout cas... Ça faisait partie pour les gros fans de Free d'un point. Ouais, ce qui est dommage, c'est que tout ça, c'était gratuit. C'était censé être une stratégie qui allait évoluer. Et la stratégie est complètement tombée à l'eau. Ouais. Ça a disparu de la Freebox Ultra. Free avait promis au moment de la Freebox Ultra qu'il reviendrait avec une offre maison connectée. Donc, on pouvait espérer des accessoires gratuits ou une petite option. En fait, non, c'est payant. C'est un petit peu cher, hein, d'ailleurs, parce qu'on est sur un pack qui coûte 250€ pour le grand public et 200€ si on est abonné Free. Et dans ce pack, on va retrouver des accessoires beaucoup plus modernes que ce qu'on avait sur la Freebox Delta. Il y a une caméra, il y a une alarme, il y a un digicode qu'on peut accrocher sur son mur pour désactiver l'alarme, un capteur de porte et un capteur de mouvement, un détecteur de mouvement. Et une fois qu'on a cet équipement, on a deux options. Soit on l'utilise soi-même avec sa propre application Kiara, et donc dans ce cas-là, on ne paye pas, c'est soit de créer ses automatisations. C'est vrai que moi, c'était l'usage que j'avais de la Freebox Delta, parce que j'activais l'alarme en vacances, comme ça, je savais que si j'ouvrais la porte, ça sonnait et ça faisait peut-être peur à quelqu'un, et je recevais une notification. Donc soit on se contente de ça. Bon, 200 euros, je trouve que, à titre perso, je ne recommanderais pas, c'est un petit peu cher pour juste un truc comme ça. Soit on va un petit peu plus haut et on paye 20 euros par mois ou 15 euros par mois si on a abonné Free. Et là, on a un vrai concurrent de Verisure avec la possibilité, en cas de problème, d'avoir des personnes qui vont accéder à la caméra de chez vous à distance, qui vont appeler la police, qui vont s'assurer que la police est arrivée sur place, qui vont communiquer avec la personne qui rentre dans l'appart pour vérifier que c'est quelqu'un qui a le droit de venir. Si vous avez peur, quelqu'un est en train de vous séquestrer, vous pouvez appuyer sur un bouton SOS qui va déclencher automatiquement l'aide de quelqu'un qui va prendre le relais. C'est très similaire à ce que fait Verisure.
C'est une vraie offre costaud, on va dire, de sécurité et de surveillance de la maison.
Exactement, c'est costaud en tout cas. Enfin, c'est vrai que ça, c'est sur le papier, c'est séduisant. À l'année, j'ai calculé, en incluant le prix du matériel et le prix de l'abonnement, ça reviendrait à 400 euros si on est abonné Free, alors qu'un Verisure, c'est plutôt à 2000 euros.
Ouais.
Donc, le prix est vraiment cassé. Maintenant, là où je mettrais juste une petite réserve, c'est que si on compare à des offres comme Ring, alors Ring, il n'y a pas la télésurveillance, c'est vrai. Par contre, Orange a une offre de télésurveillance. Ring et Orange, ils reviennent aussi à 400 euros par an, avec parfois plus d'options de personnalisation, plus de choses.
Mais ils sont moins bons marketing.
Mais pas le central d'appel, comme tu le disais.
Orange, par contre, on n'est pas propriétaire du matériel chez Orange. Ouais. C'est le truc qui est un petit peu différent.
Et Orange, on
arrête,
parlé.
Ils reprennent tout.
Voilà. Ils sont moins forts en marketing que
Orange, ils sont moins forts en marketing, c'est ça. Donc, en vrai, Verisure est vraiment très positionné haut de gamme. Ils s'adressent à un marché, un marché où ils sont quasiment en monopole.
Et puis, ils viennent installer le matos aussi. C'est la différence.
Ils le vendent 300 euros, l'installation du matos Verisure, alors que chez Free, c'est soi-disant une installation en 15 minutes qu'on fait soi-même. Oui. Orange aussi vient installer d'ailleurs, je crois, mais c'est gratuit chez Orange. Donc, il existe des offres alternatives. Moi, je suis d'avis à penser que si vous voulez juste mettre une alarme chez vous, une caméra, etc., ce que propose Amazon avec Ring est vraiment
super,
pas mal.
Vraiment.
300 euros, on peut avoir un bon pack, on peut rajouter plein de choses.
Oui, oui, oui.
Les accessoires coûtent pas cher et l'application est vraiment bien faite. Maintenant, si vous avez envie de sécuriser votre maison, de vous rassurer, d'avoir plein de choses, de la télésurveillance, l'offre de Kiara, elle est pas mal.
Alors, la plupart des gens qui vont se tourner vers Kiara, ils ont un appartement, donc l'offre de base suffit largement à couvrir les besoins de base. Mais effectivement, ce qui est intéressant chez Ring, qui est une filiale d'Amazon, c'est qu'ils sont metteurs. Ça veut dire que demain, si je veux mettre une deuxième caméra, ou une troisième caméra, ou une quatrième caméra pour le jardin, pour un carillon pour pouvoir sonner et avoir un interphone.
Il y a tout un écosystème.
Une sirène extérieure.
Je ne suis pas obligé de prendre une Ring. Je peux mettre un écosystème compatible Meta. Et là, que ce soit Verisure ou nos amis de chez Kiara, ça me gêne puisque c'est le nom de ma fille. Donc, prendre le nom de ma fille, ça me gêne un peu.
Oui. Mais, pas la même orthographe.
C'est pas facile à retenir, je trouve.
Ouais.
J'ai encore du mal alors que j'ai écrit plein de fois depuis lundi.
C'est pas un super bon titre, un super bon nom facile à reconnaître.
Donc, si on veut rajouter une caméra ou on veut rajouter un objet supplémentaire, il faut rester dans l'écosystème de la marque, ce qui est un peu dommage. Alors que si on va du côté de vrais constructeurs qui ne font pas forcément du service, et c'est vrai que c'est important chez eux, on peut panacher, mettre un peu de Netatmo, un peu de Harlow, un peu de Ring, sans problème, puisque c'est metteur et c'est interopérable.
Oui, c'est ça. Ouais. Bon, intéressant. Toujours chez Free, une évolution aussi de la Freebox Pop. On parle beaucoup de Wi-Fi 7. Eh bien voilà, la Freebox Pop va accueillir le Wi-Fi 7.
Surprise, on a une nouvelle Freebox, deux nouvelles Freebox en trois mois. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de Free. Donc cette nouvelle Freebox Pop, elle ressemble à l'ancienne Freebox Pop. Elle a le même prix que l'ancienne Freebox Pop. Elle a deux nouveautés. La première, c'est un bouton on-off. C'est apparu pour la première fois avec la Freebox Ultra. C'est dû justement aux économies d'énergie, à la responsabilité. Personnellement, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Je pense que c'est un petit peu du bullshit, cette histoire d'éteindre sa box le soir pour économiser l'électricité. Mais bon, en tout cas, Free fait ce geste-là. Et la deuxième nouveauté, c'est l'arrivée du Wi-Fi 7 avec une subtilité importante, pas de bande 6 GHz. Donc, c'est quand même le point fort du Wi-Fi 7 avec le Wi-Fi 6E, on l'avait vu aussi avant. Donc, on est sur du Wi-Fi 7, sur du 2,4 et du 5 GHz. Donc, l'idée, c'est plus de proposer une box meilleure pour ne pas avoir de regrets en prenant la Freebox Pop. Mais on n'est pas sur une box aussi rapide que la Freebox Ultra si on veut vraiment de super débit et des téléchargements. J'ai fait du 4 gigas par seconde avec un iPhone, avec un Galaxy S24 Ultra sur la
Qui est donc compatible Wi-Fi 7.
Wi-Fi 7 en 6 GHz.
T'as fait du 4 gigabit en speed test?
Ouais, en Wi-Fi.
Waouh.
C'est pas mal, hein.
ça veut dire que tu avais au moins, tu avais du 8 gigas en down et en up.
J'ai pas pu mesurer en Ethernet parce que j'ai pas d'ordinateur avec un port Ethernet digé, mais j'imagine que je suis au-dessus des 4 si j'arrive à faire du 4 en Wi-Fi. Donc en tout cas, la Freebox Ultra est plus impressionnante sur ces débits-là. Je pense même que il est possible que le Wi-Fi 7 de la Freebox Pop soit moins rapide que le Wi-Fi 6E de la Freebox Delta ou de la Freebox Ultra.
Oui, parce qu'il a la bande supplémentaire.
Il y a du 6 GHz. Ouais. Maintenant, sur la bande 2,4 et sur la bande 5 GHz, ça sera plus rapide. Ouais. Hein, il va y avoir une vraie amélioration, donc c'est plutôt cool.
Si c'est un vrai Wi-Fi 7, en tout cas labellisé Wi-Fi 7, on peut peut-être accueillir plus d'appareils.
Oui,
il y a peut-être aussi une stabilité du Wi-Fi qui est meilleure.
Il y a aussi l'idée que quelqu'un qui s'abonne à la Freebox Pop ne va pas changer de box dans un an. Il y a des gens qui ont la Freebox Révolution, se vend encore aujourd'hui. Je connais plein de personnes, je leur dis, mais pourquoi tu restes sur la Freebox Révolution, change. Mais moi, je la trouve super, cette box, elle marche bien, je changerai le jour où elle meurt. Donc, sur les box, les gens ne changent pas aussi vite que sur un téléphone. Donc, c'est bien de se dire que voilà, peut-être que le prochain iPhone, l'iPhone dans 2 ans, aura du Wi-Fi 7, que le Wi-Fi 7 sera la norme sur tous les appareils, que la PS6 sera Wi-Fi 7, je ne sais pas. Bah, c'est bien de se dire que la Freebox Pop, dès aujourd'hui, elle est compatible. C'est une vraie avance sur les autres opérateurs.
Le 15 Pro Max, il est Wi-Fi 6E.
6E.
Ouais, tout juste. Et Apple est très en retard, de manière générale.
Je crois que c'est que le Pro qui est Wi-Fi 6E.
Le Mac est passé 6E également l'année dernière.
Ouais, le MacBook Air, ça date de 2 semaines, le Wi-Fi 6E.
Timidement, et encore, les benchs ne sont pas géniaux. L'optimisation du 6E sur Mac, elle n'est pas au niveau de Windows, ni de l'iPhone d'ailleurs. L'iPhone est plus rapide en 6E que le Mac.
Et ça, c'est quoi? C'est un problème? C'est pas un problème de hardware, c'est un problème de logiciel. C'est ça.
Sur la bourre.
C'est étonnant, hein, Apple n'a jamais été le. C'est étonnant, c'est fou parce que Apple a inventé le Wi-Fi carrément.
AirPort.
C'est-à-dire que le premier Mac qui était connecté, AirPort. C'était l'AirPort. Ça, c'était un truc de fou quand même.
Et j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit,
où le hula hoop.
Non, mais c'est incroyable, c'est une vraie claque. Hein. On oublie à quel point le Wi-Fi a changé notre vie. Ouais. Hein. Mais c'est dingue, c'est qu'aujourd'hui,
Non.
Ils suivent, on va dire.
Hein. Ils ont abandonné toute la division routeur.
Ouais, ils avaient des super routeurs, super simples à installer. Comparé. En France, j'ai mis le marché avec les box, mais aux États-Unis, c'était très populaire, effectivement. Ils ont inventé un routeur avec un disque dur intégré, Time Capsule, qui permettait de sauvegarder tes Mac à distance. C'est une super idée. Aucun constructeur de routeur n'a emboîté le match. J'étais sûr.
Après, il y a le cloud qui est arrivé. Ils sont
dit,
bon, finalement,
toujours pas sauvegarder son Mac sur le cloud. Hein. Donc, finalement, ça aurait un intérêt. Moi, je fais très peu de sauvegarde de mon Mac et un jour, ça va se retourner contre moi. Je le sais. Hein.
Donc, toujours les cordonniers qui sont le plus mal chaussés.
C'est toujours, exactement. Mais c'est toujours au moment où ça nous arrive qu'on se dit, bon, je le savais. Mais bon, c'est vrai que ça aurait du sens, en tout cas, que Apple se relance un peu sur le Wi-Fi, aussi bien pour améliorer ses produits que pour concurrencer Google, qui maintenant a une division routeur. Mais oui, ils sont pas très très forts là-dessus. J'espère que le Wi-Fi 7 arrivera vite, qu'ils ne vont pas attendre 3 ans.
Ouais. Logiquement, l'iPhone 16 devrait l'adopter, mais c'est vrai qu'ils sont en retard par rapport à Samsung, qui l'adopte déjà. Et encore, c'est même pas sûr, on va voir. Mais ce qui est intéressant avec le Wi-Fi 7, effectivement, c'est que, ou même le 6E, hein, c'est qu'au-delà de la puissance, c'est vrai qu'on est obsédé par la bande passante. Aujourd'hui, c'est le problème des box, c'est que lorsque vous êtes dans les grandes métropoles et dans les grandes villes notamment, vous allumez votre Wi-Fi, vous apercevez qu'il y a autour de vous, il y a 40, 50 box. Surtout dans dans les grands territoires urbains. Et le problème de ces réseaux Wi-Fi, c'est qu'ils sont complètement saturés. Donc, vous avez beau à monter en puissance, c'est saturé. C'est-à-dire la bande de fréquence.
Alors, ça va marcher très, très proche de la box, mais quand tu t'éloignes, tu as des parasites autour.
Exactement. Donc, l'enjeu, c'est de disposer de plus de bandes de fréquence. Et le 6E et le 7 offrent la fréquence supplémentaire à condition d'avoir la bande de 6 GHz que n'a pas la Pop. Donc, c'est un peu dommage.
Vous connaissez peut-être Lionel Paris, qui est un spécialiste de tous ces sujets-là, et qui nous disait qu'il n'y a pas plus tard que, je crois que c'était la semaine dernière, dans De quoi je me mêle, qui nous expliquait qu'il sortent un système Orbi Wi-Fi 7 qui monte à 27 gigabits.
Imagine
27 gigabits par seconde, quoi.
C'est plus rapide que le
film. Alors même si tu divises par deux.
Oui, c'est ça, mais quand on compare les normes et la réalité, c'est toujours un peu rigolo. Oui. C'est que,
non, mais même t'arrives à aller, admettons, tu tombes de 27 à 10 gigabits. 10 gigabits en Wi-Fi.
Qui a 10 gigabits à la maison déjà?
Qui a 10 gigabits à la maison, quoi. Il y a aussi une connexion Internet aujourd'hui qui te permet d'avoir 10 gigabits.
Je ne suis pas loin, du coup. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je ne vais pas être loin.
Voilà, mais déjà, il faut avoir la box qui te permet d'aller au-delà du gigabit, s'ils ne sont pas nombreux. C'est l'argument de l'Ultra.
Donc, tu es passé en Freebox Ultra.
Oui, j'ai testé, en fait. Je vais repasser à la Delta. Ils m'ont prêté l'équipement, ils vont le reprendre. j'ai pas été suffisamment convaincu pour vouloir...
Tu n'as pas fait encore d'enfants, suffisamment d'enfants pour te prendre la bande de fréquence.
Non, mais c'est vrai qu'après, c'est la question qu'on se pose, ça sert à quoi d'avoir 8 gigas? On en a parlé souvent ici. Moi, j'avais posé la question à Xavier Niel, hein, qui en fait vraiment son argument de vente. 8 gigabits en down et en up. Lui, il imagine que demain, on aura besoin de cette puissance-là, mais... Pourtant, Dieu sait si on est quand même un peu techos, hein, et on va dire geek.
Oui.
Moi, j'ai 1 giga en down et en up, et ça suffit mais largement, pour tous mes usages.
Et
on est plusieurs à la maison à taper dessus.
Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas les équipements. C'est qu'elle est sympa, cette Freebox, avec du 8 giga symétrique, mais en fait, il n'y a que mon S24 Ultra qui est capable de vraiment exploiter le maximum. J'ai l'usage le plus pratique.
Mais avec ton iPhone, t'es à quoi? T'es 1 giga, en fait.
J'arrive à taper 2,5 en 6.
Ah, quand même.
Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Bah, c'est ça. Et comme tu le dis, plus qu'avec le Mac. Avec le Mac, je tape pas les 2,5. L'iPhone s'en sort mieux que le Mac sur du Wi-Fi 6E. Mais ce qui me dérange, c'est que c'est sympa d'avoir ces débits-là sur mon iPhone ou les 24 Ultra. Mais ça me sert à quoi?
Non, ça sert à rien.
Ce qui m'intéresserait, par contre, c'est la PS5. Quand il y a un GTA qui va sortir avec 200 gigas, j'aimerais aller vite. Mais le port Ethernet de la PS5, il est limité à 1 giga.
Donc, t'es mort.
Donc, je ne veux pas télécharger un jeu en Wi-Fi. Il n'y a même pas de Wi-Fi 6. Elle n'est même pas Wi-Fi 6, la PS5, je crois. Ou alors, au maximum, elle est 6, mais elle n'est ni 6 ni 7.
C'est-à-dire qu'au niveau réseau, elle est obsolète.
Bah, dans tous les cas, je suis limité par la limite hardware de la console. J'espère que la future PS5 Pro aura un port 2,5, 5, j'en sais rien. Je suis même pas sûr que ça arrive. Et même les ports à l'arrière des box, c'est rare qu'ils dépassent. La Freebox Pop, elle dépasse pas les 1 giga.
Et puis le réflexe, on en parlait d'ailleurs, tu parlais de Lionel, on en parlait il y a pas très longtemps, Lionel Paris, c'est que le réflexe des utilisateurs, la plupart des box, vous savez où ils sont installés, les box dans les appartements en France?
Dans des armoires.
À l'entrée des appartements. Ouais, maintenant,
Les armoires électriques. Pourquoi? Parce que historiquement, c'est là qu'arrivait le téléphone.
Ouais, la fibre et le téléphone.
Et maintenant, les nouveaux bâtiments, il y a un port fibre avec la Freebox Ultra, elle peut se visser au mur. Elle est justement avec les tailles standards des nouveaux bâtiments. Ça m'amuse. Moi, j'ai un vieil appartement où c'est pas du tout comme ça. Mais
donc, généralement, ta box, tu la mets dans l'entrée. Donc le Wi-Fi, il rayonne. Donc il rayonne en cercle, donc ça veut dire qu'il rayonne la moitié chez ton voisin et la moitié chez toi. Donc déjà tu perds 50%.
Oui, c'est ça, ouais. Tu arroses très bien le couloir en fait.
Le couloir c'est très utile. Et au-delà, donc tu dis je vais mettre un répéteur. Il ne faut pas mettre un répéteur parce que le répéteur ça n'augmente pas la bande passante.
Ça la divise par deux en général.
Donc il y a beaucoup d'éducation et d'évangélisation à faire autour des enjeux du
Wi-Fi. Et oui, si on en parle souvent dans De quoi je me mêle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie sur ce sujet, tu as raison. Alors, ce De quoi je me mêle est terminé.
Déjà,
si vous êtes avec nous, ben oui. Mais en revanche, si vous êtes avec nous en audio, si vous êtes en podcast, le petit module, le bonus vous attend toujours avec Cédric et Nicolas. Merci beaucoup, messieurs. C'était cool.
Avec plaisir.
De passer cette petite heure en votre compagnie.
Je reviens avec le Vision Pro la prochaine fois.
J'aimerais bien. J'aurais aimé l'avoir aujourd'hui, mais bon.
Parce que moi, je te reconnais plus en Vision Pro.
En tout cas, merci de nous suivre. Bon week-end à vous toutes et à vous tous en audio, vidéo, vous le savez de quoi je me mêle, et le petit module bonus qui vous attend, c'est une exclusivité podcast, vous le savez depuis quelques semaines maintenant. Merci de nous suivre, à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.